Bonjour Nicolas Stocker.
Eh bien bonjour Arnaud, bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes bienvenus dans ce libre journal de géopolitique profonde. Et oui, je remercie à la technique Arnaud. Que ferions-nous sans nos techniciens? Eh bien, il n'y aurait pas d'émission du tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tout comme je remercie notre bénévole qui, je sais, est là. Patrice est là malgré les travaux. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. D'ailleurs, il est toujours fidèle au rendez-vous, notre cher Patrice. On est très content de l'avoir. Donc, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, vos observations, remarques, chers auditeurs, que ce soit par courriel électronique, et bien sûr, on me les communiquera, ou même par téléphone avec Patrice, qui nous les communiquera aussi. Vos remarques, c'est votre radio. On le rappelle, nous sommes à votre service, nous sommes nous-mêmes des bénévoles, que ce soit le patron d'émission ou son assistant, assistante en l'occurrence, et je la salue, elle est avec moi ce matin, comme très souvent, je ne dis pas comme toujours, puisque j'ai des remarques en disant non, elle n'est pas toujours là, et c'est même des fois carrément, les auditeurs se fendent d'un message pour me contredire, et oui, l'esprit de contradiction, c'est bien français tout ça. Alors en tout cas, elle est souvent en ma compagnie, le samedi matin dans ce livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie, il s'agit de Lara. Bonjour Lara.
Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur cette antenne.
Et alors, on va tout de suite se retrouver pour notre petite revue de presse dans un instant. Au préalable, puisqu'il est déjà là, je salue l'invité du jour, c'est lui, à partir de 9h30, peut-être un peu avant, qui sera notre grand invité avec lequel nous échangerons, hein, notre Zarathoustra en quelque sorte, c'est lui qui parlera. Il s'agit d'Olivier Rouault, qui est l'auteur de ce livre, qui est le titre de l'émission, quoique j'y avais mis, pour ne pas trop choquer, un point d'interrogation, là où il y a clairement un des 10 commandements chez Olivier Rouault, un point d'exclamation, tu ne voteras point. Bonjour mon cher Olivier Rouault, et bienvenue dans ce libre journal.
Merci de votre accueil, merci, bonjour Nicolas, bonjour Lara, je suis très heureux d'être là.
Eh bien écoutez, on est très heureux de vous avoir, préfacer ce livre, tu ne voteras point, de l'excellente Raphaël Auclair. C'est un livre aux éditions Les bons livres pour tous, comme quoi il y a un certain nombre de choses pour tous qui sont bien, on va dire. Peut-être pas tout, justement. Pas tout pour tous.
Les livres, oui.
Voilà, les livres pour tous, oui, c'est ce que ce serait même formidable si tout le monde pouvait lire. Très bien, bah écoutez, chers auditeurs, on va peut-être commencer, Lara, par une revue de presse rapide, trois points en tout cas. En particulier, on commence par trois points, attention. Hein. Aucun rapport, je le dis pour Olivier Rouault, qui est dû, qui n'hésite pas à châtier comme il se doit nos frères trois points. Il ne s'agit pas des frères trois points, là en l'occurrence, mais deux points d'actualité. Commencez peut-être, Lara, par le fait qu'il y a le feu au lac. Ça fait une semaine que Donald et Benjamin ont lancé les opérations contre l'Iran avec un résultat pour le moins mitigé. Pourtant, qu'est-ce qu'on ne nous avait pas dit en éliminant tout de suite les hauts dignitaires du régime, dont le guide suprême Ali Khamenei? Eh bien, ça devait être une promenade de santé. Eh bien, écoutez, au bout d'une semaine, il n'y a jamais eu autant de drones sur les bases américaines, sur Tel Aviv, sur Jérusalem, dans les pays du Golfe, et de missiles, et que d'ailleurs les Iraniens commencent à sortir le gros matériel avec de l'hypersonique, ce qui n'arrange rien pour les forces israélo-américaines et pour les populations civiles aussi, qui sont bien sûr, comme toujours, les premières à souffrir. Mais ça, on sait qu'avec un État prédateur comme Israël, les forces, les éléments civils sont toujours les premiers à terriblement souffrir après le génocide de Gaza. Eh bien, ils sont en train de commencer à perpétrer une horreur similaire avec Beyrouth, avec le Liban. Quand est-ce qu'on arrêtera enfin cet État prédateur? Ça sera difficile puisqu'ils ont le soutien de la première puissance mondiale, ou en tout cas, ils se considèrent comme telle, en tout cas première puissance militaire, c'est évident, encore aujourd'hui. Peut-être pas d'ailleurs sur tous les points et tous les plans. On pourrait se poser la question quand on voit la difficulté qu'il y a l'OTAN en Ukraine face à la Russie. Mais enfin, donc, un discours martial, mais on sent qu'il commence petit à petit à se poser des questions, Donald Trump. Quand on lui demandait alors cette opération, vous la notez sur 10, vous lui donneriez combien? Évidemment, toujours plein de vantardises. Le Yankee disait 15 sur 10, maintenant il ne dit plus que 12 sur 10. Alors, c'est pas... ça commence à baisser un peu. Celui qui fait beaucoup parler de lui actuellement, qui est aussi un ancien présentateur télé, comme Trump d'ailleurs, hein, c'est un clown, c'est Pete Hegseth, qui d'ailleurs donne des sueurs froides à son chef d'état-major, et qui interpelle l'opinion publique en disant « nous les frappons alors qu'ils sont à terre ». Et c'est exactement ça que ça doit être, comme ça que ça doit être. Voilà, il faut frapper à terre. On a vu ce que ça donnait à Lyon avec le jeune Quentin, quand on frappe à terre. Voilà à quoi on arrive. Donc nous avons affaire à des puissances qui se prétendent civilisées, qui sont en réalité des puissances barbares, et qui aujourd'hui subissent, que ce soit sur terre, que ce soit sur mer, avec le détroit d'Ormuz, entre autres, eh bien, un certain nombre de revers dont on peut se poser des questions quant aux conséquences vers un spectre d'une triple défaite, peut-être pour les Américains et les Israéliens, à la fois morale, ça, je crois qu'elle est consommée, cette défaite morale. Il y a la défaite militaire qui leur pend au nez, en tout cas dans la dissuasion du faible au fort, on peut dire qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent pas, ils sont même demandé à Zelensky l'aide de dronistes, et puis une défaite économique, avec un baril de pétrole qui est en train de s'envoler, il est plus proche des 100 dollars le baril, ça monte très très vite. Nous sommes pas loin d'un choc pétrolier, d'un choc des énergies, qui pourrait avoir des conséquences d'autant plus désastreuses, contrairement à ce que nous disent les spécialistes par rapport aux années 70, que nous sommes devenus des pays extrêmement endettés, et que des pays à la fois très endettés, qui n'ont plus l'hypothèque des hydrocarbures, des matières fossiles, des énergies fossiles pour en quelque sorte soutenir la dette, eh bien, on se retrouve avec de gros trous. Et qui va combler ce trou? Eh bien, ça va être à chaque fois de la création monétaire, et nous finirons tel a fini, à mon avis, si nous continuons comme ça, la République de Weimar. Lara, j'ai fait un trop long tunnel, donc je voulais avoir un petit peu votre avis sur la guerre actuelle, la guerre d'agression, hein, faisons-nous plaisir. Les médias larbins, Anon, répètent ad nauseum la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de la guerre d'agression israélo-américaine vis-à-vis de l'Iran.
Mais cher Nicolas, n'est-ce pas une suite logique de la guerre en Ukraine, de ce Maïdan, Euromaïdan en Ukraine, avec une élection d'un clown à la tête de l'Ukraine, que ce que nous voyons aujourd'hui, l'arène internationale se transformer en cirque véritable? C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, par exemple, notre chef d'État qui dénonce des frappes sans mandat international, donc contre le droit international, et qui dénonce les frappes de l'Iran, qui se défend mais qui devient tout à coup l'agresseur. Mais tout est inversé, cher Nicolas. Et il ne faut plus chercher sur ce qui se passe, la réalité. Tout est fait pour nous masquer d'autres sujets, pour nous masquer d'autres situations sur lesquelles c'est intenable pour ces gens-là. C'est totalement intenable. Moi, je fais juste un rappel à notre public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est dans nos... Si regardant la télévision, on accepte de voir ce qu'on voit, c'est-à-dire Beyrouth bombardé, et nous expliquer que c'est le Hezbollah qui a commencé, mais ne me faites pas rire, arrêtez cela, ce cirque-là, pas pour moi, c'est insupportable. Ce qui se passe aujourd'hui, D'abord, frapper un chef de religieux, mais qu'est-ce que ça peut faire de la part de gens d'un côté qui sont habités par un messianisme complètement délirant et d'autres, les laïcars, qui considèrent qu'on frappe le régime des mollahs. Et puis la suite aujourd'hui. Donc c'est insupportable, c'est insupportable à regarder, c'est anxiogène et c'est on ne peut plus apocalyptique. D'ailleurs, les soldats américains sont appelés par le même clown, Pitet Hegseth, comme étant des soldats d'Armageddon. Voilà.
C'est vrai, vous avez parfaitement raison, vous avez ce messianisme à la fois des sionistes révisionnistes, vous avez le messianisme protestant aussi américain, qui se conjugue. Et puis, comme vous le dites, en effet, il y en a d'autres qui sont dans des considérations beaucoup, beaucoup moins religieuses, mais qui, en tout cas, voient aussi le fait de frapper le régime des mollahs. Enfin, c'est plusieurs centaines de millions de chiites dans le monde qui avaient l'équivalent, le guide suprême, un peu, de ce qu'est le pape pour les catholiques. Donc, nous avons des Israéliens qui, dans leur guerre religieuse, et après, on ose nous dire qu'Israël, c'est la même logique que ce qui devrait exister en France. Eh bien, dans cette logique messianiste et eschatologique d'Armageddon israélienne, eh bien, il est dit non seulement il n'y a plus de l'équivalent du pape pour les chiites, mais il n'y en aura plus. C'est-à-dire, tous ceux qui pourraient être amenés à remplacer Ali Khamenei seraient des cibles légitimes. Donc c'est un petit peu comme si, après avoir tué Léon XIV aujourd'hui, on disait, eh bien, les catholiques n'auront plus de pape. C'est ce genre de violence. Je ne vous parlerai même pas de l'infamie d'oser, quand on sait le génocide que peut représenter Gaza, eh bien, menacer Beyrouth du même sort. C'est ce que les Israéliens ont fait, entre autres Katz, le ministre de la Défense, mais Netanyahou, on n'en parle même pas, donc qui menace du même sort que les Gazaouis, que les Palestiniens, aujourd'hui les Libanais. Avec des bombes, on peut dire même d'ailleurs, il y a une espèce de jouissance mortifère qui, en plus de la propagande, du mensonge, du fait que la censure s'exerce de façon implacable, censure de guerre militaire américaine comme israélienne, en plus d'avoir des clowns qui expliquent qu'on n'a jamais vu une aussi belle guerre menée par des armées aussi morales et aussi fortes que sont les armées israéliennes et américaines. Donc nous avons en plus de ça une espèce de culture mortifère, je trouve, des médias, à avoir une espèce de jouissance. Ils ont peine à ne pas jouir de cette horreur qu'est la guerre, de ces bombardements, de ces immenses nuages de fumée marron, noir, qui s'élèvent vers le ciel et derrière. Et oser dire que ce sont des frappes de précision. Il y avait un exercice pendant plus d'une heure tout à fait laborieux et misérable de BFM Menteur, des journalistes de BFM Menteur hier soir, que je me suis coltiné pour vous, chers auditeurs, pour cette matinale, où justement, eh bien, il justifiait, on voyait que tous les immeubles tombaient comme des châteaux de cartes, on imagine les gens écrasés sous les débris, les familles, les enfants de l'armée la plus morale du monde, sous les coups de l'armée la plus morale du monde, qui est Israël, eh bien, cette épouvante, en expliquant que ce sont des frappes de très haute précision et que c'est quasiment par la fenêtre de la cuisine que passe le missile. Pourtant, même les images elles-mêmes sont en discordance, on est dans une dissonance cognitive. C'est une violence qui est faite, c'est une violence, c'est une grande violence médiatique. Il ne faut pas la négliger, chers auditeurs, cette violence médiatique qui s'abat sur nos têtes. Et heureusement qu'il y a votre chère radio, heureusement qu'il y a GPTV, heureusement qu'il y a des médias autres qui, justement, développent une autre information. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Rouault ? On va peut-être vous... Ah non, Lara d'abord et Olivier...
Juste... Je voulais rappeler à nos auditeurs ce que c'est aujourd'hui le Liban. Outre les liens qui sont depuis des liens avec la France, mais je voudrais juste rappeler aux auditeurs ce que c'est aujourd'hui le Liban. C'est un pays qui a recueilli en fait les réfugiés syriens qui ont quitté la Syrie pendant la guerre et qui sont restés depuis. Donc, vous avez un pays qui est déjà gonflé de réfugiés. Et se rajoute à cela une population de Gaza qui a pu fuir et s'installer au Liban. Et ces populations aujourd'hui, Nicolas, ils sont appelés à se déplacer, mais dans une folie complètement de fanatiques malades, quand on leur dit « quittez le nord pour aller au sud », « à quitter le Beyrouth sud pour aller au nord du Beyrouth ». Et c'est l'armée la plus morale parce qu'ils préviennent avant de frapper. C'est-à-dire, vous frappez pour tuer, mais vous prévenez, et en fait, vous êtes, par ce biais-là, vous êtes l'armée la plus morale. C'est insupportable, Nicolas, c'est insupportable. C'est déjà un peuple qui est complètement aujourd'hui sacrifié, qui doit subir en fait tous les conflits autour et qui finit aujourd'hui peut-être de mourir sous nos yeux. Mais c'est insupportable.
Merci Lara. Olivier Rouault, vous n'êtes pas seulement l'auteur de « Tu ne voteras point », vous êtes aussi un membre éminent de Divergence politique, qui est justement est un média qui traite de géopolitique avec des auteurs tels que Xavier Moreau, par exemple. Eh bien, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe en Iran aujourd'hui, cher Olivier.
Oui, ben écoutez, après vous deux, j'ai du mal à dire des choses complémentaires. Néanmoins, il y a peut-être un point intéressant. En fait, on énumère classiquement trois grandes pistes pour expliquer ce qui se passe. Je les simplifie à outrance, naturellement. Oui. La première piste consiste à évoquer l'instabilité psychologique de Trump. C'est évoqué à voix haute, même par des sénateurs, d'ailleurs, américains. C'est une piste, elle a le mérite d'exister. La seconde piste est d'ailleurs défendue par le brillant historien Édouard Husson, qui consiste à dire qu'en fait, notre ami Trump nous prépare une surprise, qu'il y a quelque chose de caché dans sa stratégie qui est une bonne chose. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure, si vous me le permettez.
Oui.
Et la troisième piste, bien sûr, vous l'avez évoqué, consiste à imaginer des pressions terribles sur Trump, des pressions de tiers pays, vous avez évoqué Israël, naturellement, et certaines de ces pressions confinent d'ailleurs au chantage, et on peut se poser des questions. Et quant à la piste évoquée par Édouard Husson, elle est intéressante, moi-même je n'y crois qu'à moitié, mais elle est intéressante néanmoins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en s'attaquant à l'Iran, après s'être attaqué au Venezuela, Trump est en train de couper l'herbe sous les pieds de la Chine.
Oui, tout à fait.
Or, la Chine a annoncé à plusieurs reprises et par plusieurs canaux son intention d'envahir Taïwan en 2027. Mmh. Taïwan, c'est les puces électroniques notamment, c'est hyper essentiel pour les Américains, et il est possible qu'en damant les pions de la Chine, Trump empêche cette possibilité, et quelque part, il empêcherait une troisième guerre mondiale. Donc voilà déjà ces trois points et demi que je voulais évoquer.
Très bien. Quand vous parlez, je vais vous laisser encore peut-être vous exprimer quelques minutes sur ce sujet, quand vous parlez de chantage à l'égard de Donald Trump, de quoi vous parlez-vous exactement, Olivier ?
Alors, bien sûr, si je savais, je serais probablement beaucoup plus riche. En réalité, les sources de chantage sont nombreuses, mais celles que l'actualité évoque en permanence, c'est bien sûr les dossiers Epstein. Et c'est une piste, bon, j'y crois qu'à moitié, c'est tellement sordide, mais souvent le sordide est plus vrai que vrai. Donc, en tout cas, le chantage proviendrait d'Israël sur Trump, et Trump, qui est entouré énormément de personnalités israéliennes, est probablement pas tout à fait blanc, naturellement, et il est possible qu'un chantage puisse s'exercer sur lui.
Très bien, par un jeu de chaises musicales, nous nous retrouvons avec Lara et moi-même inversés. Alors ne vous inquiétez pas, vous ne le voyez pas, chers auditeurs. Nous sommes toujours présents dans cette émission, dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Lara, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Très bien, on va peut-être évoquer le second thème de cette revue de presse avec notre ami Zelensky. Zelensky qui récupère ses centaines de milliards, le mendiant de planétaire, véritable clochard politique, eh bien, s'en est pris dernièrement à un membre éminent de l'Union européenne, qui n'est autre que la Hongrie de Orban. La Hongrie de Orban, voilà. Et donc, l'Union européenne, la Commission plutôt européenne, a déploré les menaces inacceptables de Zelensky. Hein, voilà comment Zelensky remercie les Européens des milliards, des 90 milliards, par exemple, qui sont aujourd'hui bloqués justement par Orban, puisque les Ukrainiens s'amusent à bloquer eh bien, l'approvisionnement en énergie de la Slovaquie et de la Hongrie. Donc Orban a dit, eh bien, dans ce cas-là, nous allons faire la même chose avec le paquet de sanctions, 20e, je crois, paquet de sanctions. Les 19 premiers n'ont pas réussi, mais ce n'est pas grave, on continue, 20e paquet de sanctions de la Commission européenne, de la grosse commission, et de Mme von der Leyen et de M. Merz, c'est l'axe allemand de cette grosse commission. Eh bien, voilà ce que Zelensky a dit. Nous espérons qu'une seule personne au sein de l'UE ne bloquera pas les 90 milliards. Hein, les 90 milliards, on sent comme tous les corrompus qu'il y tient. Il ne touche pas au Grisby. Sinon, eh bien, nous donnerons l'adresse de cette personne à nos forces armées. Donc c'est une menace. Voilà, ce type menace physiquement. D'ailleurs, il a déjà menacé Poutine, et on a bien vu ce qu'il était advenu avec ses 90 drones envoyés sur une résidence du président de la Fédération de Russie, dont on se demande si finalement Trump n'y était pour rien, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. C'est Alex Kreiner que j'avais en effet avec Thierry Messan hier soir et Edouard Husson, dont vient de parler Olivier Rouault, qui se posait la question de savoir finalement si la CIA, et pas seulement le MI6, avait trempé avec les services ukrainiens dans cette attaque extrêmement dangereuse, qui pourrait aboutir quand même à une forme de guerre nucléaire. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec Olivier Rouault, on peut s'inquiéter de l'instabilité psychologique de Trump. J'en reviens à Zelensky, donc, qui menace d'éliminer Poutine. Maintenant, il menace d'éliminer Orban. Et ce type est censé répondre à tous les critères de la fameuse démocratie des droits de l'homme, des globalistes mondialistes européistes, et intégrer dès l'année prochaine, ou dans deux ans, l'Union européenne. Un type qui menace physiquement un autre membre de cette même Union européenne. Ça fait désordre, Lara.
Oui, Nicolas, mais ça fait désordre un peu plus que ça. C'est-à-dire que, premier point, Viktor Orban, la Hongrie font partie de l'OTAN. C'est-à-dire que là, qu'en est-il de l'article 5 de l'OTAN quand on menace un chef d'État membre par un pays qui n'en est pas. Deuxième élément, c'est que Zelensky profite d'une situation qui en fait a permis de chasser, comme une formation chasse l'autre, on a oublié ces révélations faites par le SVR russe sur le fait que les Britanniques et les Français étaient impliqués dans une histoire de bombes sales qu'on donnerait à l'Ukraine, bombes nucléaires sales. On a oublié ça. Depuis, on a eu même un discours d'Emmanuel Macron sur la nouvelle doctrine nucléaire qui devrait être une doctrine de dissuasion avancée. Chose qui n'a jamais existé avant, mais qui devient tout à coup, comme notre chef d'État sait inventer des nouveaux principes sur le droit international. Et pour finir, en fait, faut aussi savoir que la Hongrie a arrêté, il me semble, quatre dignitaires qui étaient en train de transférer des fonds en liquide. Il y avait quelque chose comme 40 millions de dollars, 35 millions d'euros, 9 kilos d'or, qui étaient de passage en Hongrie, dont un ancien chef d'état-major ukrainien. Donc on ne peut pas dire que monsieur ne connaît pas Zelensky et que ça ne fait pas partie d'un groupe de passeurs pour la corruption. Voilà, ça c'est des éléments qui ne sont pas portés à notre connaissance ici. Mais c'est la réalité, allez vous renseigner ce qui se passe en Hongrie. Donc, c'est quatre personnes arrêtées avec une sacrée fortune en liquide en leur possession.
C'est vrai, tout à fait, alors absolument. Olivier, mon cher Olivier Rouault, une réaction par rapport, cette fois-ci,
Oui.
on est en Europe de l'Est avec l'Ukraine, la Russie.
Oui, alors j'ai une
Alors,
réaction indignée, c'est un peu mon caractère, hein. Parfois je suis indigné. Je trouve ça scandaleux, tout simplement. Ce type agit comme un Don Corleone qui invectiverait les familles qui ne lui rapportent pas assez à la fin du mois. C'est inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi Madame von der Leyen n'a toujours pas réagi officiellement. Il est vrai qu'un commissaire hier a dit c'est pas bien. Enfin, ça suffit pas. Comment ce type peut-il prétendre à devenir membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN? C'est inacceptable. Il est très familier du fait. Je vous rappelle quand même qu'il existe depuis longtemps et qu'il existe toujours en Ukraine un site internet qui s'appelle Mirovodzet, par lesquels le pouvoir indique les gens qu'il faut éliminer,
tout à fait,
les
tout à fait.
opposants, mais dans le monde entier. Même notre sacro-sainte Ségolène Royal est dans cette liste. Et régulièrement, on voit la liste avec les photos des gens. Alors, il y a leurs photos, leur adresse privée, leurs coordonnées, leur état civil, etc. Et régulièrement, on voit une de ces photos avec une grande croix rouge au milieu pour dire c'est bon, c'est fait. Alors, c'est inacceptable. Je ne comprends pas qu'on continue à ruiner l'Europe et à ruiner les Français, parce que le reste de l'Europe, je m'en tape, à envoyer autant d'argent à ce type qui est fou, qui est un peu en plus un nazi. Enfin, on n'a rien à voir avec ces gens-là, ils n'ont rien à faire avec l'Europe. Et quand on le voit menacé de mort, parce que quand il dit qu'il va envoyer ses militaires à l'adresse personnelle de Viktor Orban, c'est évidemment pas pour lui porter des chocolats. Et donc, c'est inacceptable, inacceptable. Et c'est une cause de rupture complète. Mais non, mais Ursula von der Leyen a ses propres prérogatives.
Vous avez parfaitement raison et vous avez raison de parler de ce site Mirosvolet. Et qu'en effet, quand il fait référence, à mon avis, directement à ce site, Zelensky, puisqu'il parle de l'adresse personnelle de Orban, c'est exactement ce que font, vous venez de le dire,
Ce
justement ce que fait
comportement.
ce site où vous êtes identifié et on essaie de donner des éléments permettant ensuite à des tueurs au petit pied de permettre justement à ce qu'on fasse une croix, comme vous venez de l'indiquer, sur la photographie de celui qu'il faut éliminer. Tout à fait. Merci Olivier Rouault. Lara, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce point?
Oui, justement, sur ce point, merci à Olivier de le rappeler, mais cela mérite encore une précision, c'est-à-dire c'est un site certes ukrainien qui est alimenté par les services donc secrets ukrainiens, qui appelle les gens à compléter les informations, c'est-à-dire les faits de délation sont complètement là. C'est un site accessible partout dans le monde. Ce n'est pas un site qui est barré par un VPN auquel vous n'avez pas accès. Et il tient aussi une partie qui s'appelle le purgatoire. C'est-à-dire que les personnes qui sont vont être rapidement éliminées. Et une fois éliminées, c'est marqué liquidé. Ce site est accessible en France. Quand on voit que parce
Rendez-vous.
qu'on reprend. Je ne sais pas, n'importe quel tweet qui parle de Gaza, etc., et qu'on est tout de suite contacté par, mis en examen ou questionné sur la façon de fonctionner, et que ce site-là reste accessible alors qu'il y a des Français qui sont mis à mort. Faut le dire, parce qu'on
Des
n'appelle pas
citoyens
juste.
français qui n'ont
Oui.
rien fait à personne, hein, notre ami Dimitri de Kochko, pour ne donner que ce nom, mais il y en a
Un
d'autres.
parmi d'autres. Hein.
Un parmi d'autres
Oui,
sont.
il y a les journalistes
Pardon.
du Monde et de Libération qui ont été aussi mis sur cette liste.
Donc vous avez, voilà, Olivier, un certain nombre de personnes. Alors quand on voit qu'on lutte soi-disant contre l'incitation à la haine en ligne, que l'on verse des larmes de crocodile parce que Brigitte se fait, paraît-il, harceler, cyber-harceler. Et donc, voyez ce qui s'est passé aussi avec ce média belge qui s'est retrouvé devant les tribunaux parce qu'ils avaient eu le malheur de
Retranscrire.
retranscrire le discours de 2024 de J.D. Vance, le vice-président américain à Munich, février 2025, pardon, février 2025.
Sanctionné parce qu'ils n'ont pas contextualisé un
Voilà.
discours d'un vice-président américain. C'est-à-dire le vice-président américain a besoin d'être contextualisé pour ne pas pour que les journalistes puissent le reprendre.
Voilà. Par contre, là, le DSN européen, quand on va chercher des noises au patron de Telegram ou même à Elon Musk qu'on a cherché à convoquer en audition libre, qui évidemment ne se rendra pas, il a bien raison, à la demande de la justice et de la police française, eh bien, on voit en tout cas le fameux deux poids, deux mesures, puisque ce site, eh bien, ça ne pose aucun problème. Et quand vous avez des personnes qui sont éliminées physiquement, eh bien, ils s'en félicitent. Et ce site est toujours parfaitement visible, parfaitement consultable en France, c'est-à-dire qu'un Ukrainien activiste va voir telle personne habitant en France qui est signalée sur ce site. Il est donc une cible légitime. Si j'ai bien compris, et ça ne dérange ni la grosse commission de von der Leyen, ni les autorités françaises. C'est quand même un comble.
Oui, et quand vous arrivez sur ce site, vous pouvez tout de suite vous manifester comme étant capable de faire un signalement d'une personne, et pour être signalé une personne, il a suffi qu'il ait fait un voyage en Crimée. C'est-à-dire le fait qu'un Français s'est rendu en Crimée est un élément qui constitue un crime selon lequel vous pouvez être liquidé, sans foi ni loi, sans aucun procès, sans aucune accusation valable. Vous êtes juste mis à mort par n'importe quel malade mental qui peut consulter ce site et décider qu'il est aujourd'hui, avec les pleins pouvoirs du pouvoir ukrainien pour liquider la personne. Enfin, c'est pour moins que ça, on a vu des têtes rouler sur les trottoirs en France. Hein. C'est, je rappelle quand même, c'est monstrueux comme démarche. Mais personne ne sanctionne ce site. Hein.
Non, personne ne le sanctionne, c'est inouï. Un auditeur, cher Lara, cher Olivier. Bonjour, Madame Lara, Monsieur Nicolas. Notre auditeur reconnaît en plus, il est humble et je l'en félicite et je l'en remercie. Et d'ailleurs, je m'associe aussi quand il dit « je me suis trompé, j'ai cru en Trump ». Eh bien, moi aussi, j'ai cru en Trump et je me suis trompé, cher auditeur. Et l'auditeur ajoute « il n'a été élu que parce qu'il serait la marionnette du système ». On sait maintenant qu'en Iran, la mort du président, la révolte contre le foulard, les dernières manifestations étaient des actions menées de l'extérieur. On voit aussi que l'implication de Trump dans l'affaire Epstein est une réalité que cette guerre sert à cacher. Pardon d'avoir été trop long. Vous n'avez pas été trop long, cher auditeur. Nous partageons, je pense, ce que sont vos propos.
Si je peux rassurer l'auditeur, pareil, moi, nous aussi, on a cru en Trump. Et en fait, il ne faut pas oublier que la principale cause pour laquelle on a cru en Trump, c'est même pas son aspect faiseur de paix. D'ailleurs, Miratvore, ça veut dire faiseur de paix. Hein. C'est dire aujourd'hui l'imposture que porte ce nom en soi. C'est-à-dire que ce système a réussi à rendre ce mot complètement inverse à son sens principal. Et nous aussi, on s'est trompé, on a cru en Trump, et parce qu'il y avait une démarche qui était contre le wokisme, contre la cancel culture, etc. Et donc, on est peut-être pardonné par ce billet-là.
Olivier Rouault, vous vouliez intervenir.
Oui, ce que vient de dire Lara est très amusant et très intéressant, mais en français, ça ne rend pas bien. En anglais, ça veut dire « peacemaker », qui est le nom d'un très fameux revolver. Et c'est, à mon avis, c'est plutôt à ça que ça fait référence. C'est le revolver qui a notamment servi à éradiquer les Indiens.
D'accord.
Ensuite, dans la guerre des Sudistes, etc. Et donc, peacemaker, ça parle mieux que faiseur de paix, effectivement. Et je voudrais ajouter un deuxième point, toujours en abondant sur ce qu'expliquait Lara tout à l'heure. Il y a une chose qui m'énerve. Moi, j'ai un tropisme important vers la Russie. Je suis d'ailleurs le président de l'Institut Anne de Russie. Et je n'ai pas le droit de regarder RT. C'est interdit. L'Europe et la France me l'interdisent. Mais j'ai le droit de regarder le site faiseur de paix.
C'est ça.
Exactement. Et là, il y a quand même un paradoxe hallucinant.
Ah oui. Et c'est absolument ça, c'est tout à fait hallucinant.
Et pour rajouter aussi dans ce sens-là, cher Olivier, cher Nicolas, je rappelle quand même que quand on parle de site de propagande, mais qu'on s'appelle Russia Today, à mon avis, ce n'est en rien site de propagande à partir du moment où vous annoncez la couleur d'avance. Quand vous êtes BFM, moi j'aimerais bien savoir qui sont les commanditaires de BFM et que signifie la sigle BFM. Pareil pour CNews, pareil pour tout un tas de chaînes. Vous ne connaissez pas la désignation véritable des sigles. Là, RT, c'était clair pour tout le monde. Hein. Quand vous cliquez sur RT, vous n'attendez pas à avoir une information contre l'État russe. Donc, à quoi bon se servir de les condamner et de les interdire? À croire qu'on ne fait plus du tout confiance à l'esprit des Européens capables
de... Le discernement.
Voilà, discernement.
Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Alors, on termine cette revue de presse pour vraiment aller vers le livre d'Olivier Rouault, « Tu ne voteras point », préface donc de Raphaël Auclair, aux éditions Les bons livres pour tous, qui a reçu d'ailleurs le premier prix de littérature chrétienne en catégorie éthique à Tours en 2022. Terminé par, allons-y, faisons-nous plaisir. Hein, nous ne le pourrons bientôt plus, puisque l'élection municipale arrive la semaine prochaine. Donc, samedi prochain, on ne pourra pas parler de politique, en tout cas politicienne, de politique nationale, au regard des règles électorales. Alors, mérite Paris, hein, nous allons faire nos adieux à notre drame de Paris. Eh oui, Madame Hidalgo. Anne Hidalgo, nous quitte. Elle ne fera pas un nouveau mandat. Par contre, même si elle n'en a pas, elle va faire contre mauvaise fortune, mauvais cœur, hein, parce que c'est pas vraiment de bon cœur. Elle n'a pas soutenu celui qui aujourd'hui, pourtant, dans l'ancienne équipe municipale, souhaite briguer sa succession, c'est-à-dire Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, que nous avons parmi les intervenants de cette élection. Et je voulais vous en dire, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai eu une petite perturbation sur... oui, tout le monde m'entend bien. Lara, vous m'entendez? Je n'entends plus Lara.
Je crois qu'elle est partie.
Ah bon, peut-être. Alors, voilà, ce que je voulais de ce dont je voulais vous parler, chers auditeurs, dernier sondage, donc les derniers sondages, pour la ville de Paris, tout du moins, avec un Emmanuel Grégoire, donc pour le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Verts, qui est en tête au premier tour, mais qui serait battu au second tour par celle qui arrive en deuxième position au premier tour, et qui gagnerait dans toutes les situations de duel, de triangulaire, de quadrangulaire, c'est-à-dire Madame Dati, donc Grégoire Dati, et puis ensuite vous avez un trio de candidats qui pourraient se maintenir, Madame Chikirou pour LFI, Monsieur Bournazel pour Horizon, vous savez, le parti d'Édouard-Philippe. Édouard-Philippe qui est en difficulté, qui va peut-être perdre tous ses espoirs présidentiels s'il perd la mairie du Havre. Hein, ce rentier qu'est Édouard-Philippe, qui doit tout à ses mentors, d'abord à Antoine Ruffnac, ancien maire du Havre, qui avait de haute lutte arraché aux communistes la ville du Havre. Eh bien, est-ce que les communistes vont reprendre la ville? Je dirais que ce fossoyeur de la fausse droite qu'est l'ancien Premier ministre du Covid, entre autres, évidemment, pourrait être battu. Mais en tout cas, le groupe Horizon, le parti Horizon d'Édouard Philippe, soutient donc M. Pierre-Yves Bournazel. Et enfin, il y a cette fameuse Sarah Knafo qui bénéficie d'une très forte couverture médiatique, contrairement par exemple, au candidat du Rassemblement national Thierry Mariani, Sarah Knafo est donc considérée comme pouvant atteindre les 10%, lui permettant de se maintenir au second tour. Donc voilà un petit peu la belle brochette que nous allons avoir. J'ai envie de dire que en aucun cas, au regard de ces résultats de sondage, les Parisiens n'en seront plus heureux. La ville n'en sera pas moins sale, je le pense. Les automobilistes pas moins harcelés, même si Madame Dati nous fait semblant de nous faire croire qu'elle va changer les choses aussi là-dessus. On le sait bien, toutes ces belles avancées écolo, dingo, toutes ces des Khmers verts, cette espèce d'idéologie punitive qui règne en maître à la mairie de Paris, il n'y a absolument aucune raison, quelle que cela ne change, que ce soit Grégoire ou que ce soit la Dati, ce sera pareil, ce sera du pareil au même, et de toute façon, ce sera l'un des deux qui sera élu, les autres n'étant que des figurants qui vont chercher quelques strapontins au Conseil de Paris. Donc là, on a, je trouve, un excellent exemple, Olivier Rouault, qui va nous permettre d'être une forme d'introduction à votre livre « Tu ne voteras point », puisque Lara n'est pas revenue. Hop, hop, hop. Non, Lara n'est pas revenue. Donc, Olivier, peut-être, attendez, il y a peut-être une question d'un auditeur. Oui, un auditeur. Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Et peut-être que Trump envoie un message à la Chine. Si vous prenez Taïwan, ça sera la guerre, bien courtoisement. C'est possible, cher auditeur, que ce soit en effet. Mais enfin, un avertissement de Trump, j'en sais rien. Trump, en tout cas, les déclenche, les guerres, les unes après les autres. Après le Venezuela, c'est l'Iran. Je ne sais pas si c'est un avertissement. Je pense que c'est surtout une politique impérialiste qui nous vient de l'Amérique, le retour de l'Empire et de son empereur, Donald Trump. Alors, Olivier, c'est le moment peut-être donc d'évoquer la mairie de Paris, finalement l'absence de choix. Il n'y a pas de choix aujourd'hui à la mairie de Paris pour la succession qui, finalement, nous fait dire « est-il bien nécessaire de voter ?»
Oui, j'ai aimé l'approche que vous avez faite en relativisant l'intérêt de l'un ou de l'autre. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi les gens ont voté pour deux fois pour Madame Hidalgo. Et quand ils voient le résultat, pourquoi vont-ils continuer à voter ? Qu'est-ce qui attire les gens, qu'est-ce qui les inspire, c'est tout l'objet de mon livre, vous aurez l'occasion d'approfondir le sujet, mais ça m'échappe, je ne comprends pas, ça m'échappe. Alors je précise quand même, c'est important, nous y reviendrons naturellement, mais si mon bouquin si ma thèse consiste à dire que ça ne sert à rien de voter, en revanche, ma conclusion, c'est qu'il faut absolument faire de la politique. Et on doit se battre coûte que coûte, et on doit travailler à faire de la politique. Donc, c'est ça ma thèse. Est-ce qu'il y a un incident technique, peut-être, apparemment ?
Manifestement, Nicolas s'est déconnecté, donc j'attends qu'il se reconnecte. C'est peut-être des choses à ajouter, monsieur Roux ?
Je vais tenter de faire le job aussi bien que Nicolas, mais c'est pas facile. Hein. Donc, c'est vrai que je ne veux pas prendre parti, ce n'est pas mon intérêt. Puis ça ne m'intéresse vraiment pas, je ne veux pas prendre parti sur qui a des chances de gagner, etc. Je crois que Nicolas l'a dit, mezzo voce, ils n'ont aucun intérêt ni l'un ni l'autre. Alors bien sûr, que reste-t-il après aux électeurs, que reste-t-il aux Parisiens ? Nous l'approfondirons tout à l'heure, mais c'est faire la politique, mais pas nécessairement de voter, ça ne sert pas à grand-chose.
Alors voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne voteras point, c'est même une sorte d'ordre, de commandement.
Oui, alors c'est un peu une provocation, c'est un peu de l'humour. D'ailleurs, ça m'a été reproché. Hein. Certains m'ont dit que je blasphémais, d'autres... Bon, évidemment, ça n'est pas vrai. J'ai voulu faire de l'humour, mais ma foi, l'humour...
Alors, vous blasphémiez quoi ? Vous blasphémiez le suffrage universel ? Vous blasphémiez...
les 10 commandements, déjà.
Les 10 commandements, hein, la règle mosaïque.
Voilà, effectivement. Oui, vous le dites bien, oui, voilà.
Voilà. Alors, peut-être le moment de faire la petite pause du Bobino. Je vois que j'ai eu un message, mais je n'arrive pas à le lire, cher Arnaud, peut-être me le communiquer pendant le Bobino. Donc, je vous propose, chers auditeurs, de passer ce court Bobino. On se retrouve avec Olivier Rouault pour son livre « Tu ne voteras point » aux éditions Les Bons Livres pour tous.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Eh bien, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal de géopolitique profonde. Et nous sommes en compagnie d'Olivier Rouault, auteur de Tu ne voteras point. Vous m'entendez toujours bien, mon cher Olivier ?
Je vous entends parfaitement.
Oui, très bien. Bon, eh bien, écoutez, moi, j'ai eu quelques petites difficultés, mais tout est revenu, je crois, dans l'ordre, ou à peu près, en tous les cas. Alors, dans ce livre, Tu ne voteras point, premier prix de littérature chrétienne, catégorie éthique, Tours 2022, donc les éditions Les bons livres pour tous, notre cher Olivier Roux, avec Raphaël Auclair, donc, qui est une brillante, qui est un docteur en sciences politiques, je crois, et qui est préfacière de cet ouvrage. Qui cite beaucoup Mazzirant, d'ailleurs, hein, dans sa préface. Finalement, c'est l'ennemi à abattre, si j'ose dire, selon vous, c'est cette abstraction qu'est le suffrage universel. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cet aspect-là, s'il vous plaît ?
Alors oui, bien sûr. D'abord, il faut rappeler, c'est étonnant, c'est presque anachronique, et beaucoup de gens vont, je l'espère d'ailleurs, se précipiter pour vérifier, chercher les sources. Mais le suffrage universel a toujours été interdit par l'Église catholique.
Oui.
Et il est toujours. Et alors, bien sûr, les gens se demandent ce que c'est que le suffrage universel, pourquoi il serait interdit. Il s'oppose en fait à l'idée d'un suffrage qui était avec des préférences. Le suffrage censitaire, le suffrage des vieux, etc. C'était peut-être difficile à gérer à notre époque. Mais le suffrage universel reste interdit parce qu'il permet à des gens qui n'ont aucune compétence d'orienter l'avenir de leur pays. Et là, il y a un problème. Je ne sais pas le régler, j'avoue que je n'apporte pas de solution, mais c'est un vrai problème. Et donc, quand je vois... Il suffit de lire les commentaires, vous êtes habitués à ça, on regarde un article sur Internet et on lit les commentaires des gens dessous. Mais quelle catastrophe, mon Dieu! Les gens disent n'importe quoi. Et ils sont tout de suite dans l'invective, dans l'insulte, dans la grossièreté, dans la majorité des cas. Et donc, comment ces gens-là peuvent-ils voter après? C'est pas possible. Et donc, voter, c'est grave, c'est très grave, c'est très sérieux. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Alors ça, c'est le premier problème, c'est le... En amont, c'est l'émetteur, donc celui qui vote. En aval, il y a celui qui se fait élire.
Oui.
On ne sait rien sur eux. De toute façon, ils nous racontent n'importe quoi. Imaginez qu'à sa première élection, Emmanuel Macron ait dit « Ah, dans ma profession de foi, j'ai oublié de vous dire, je suis un Young Leaders, donc je suis tout à fait assujetti aux intérêts américains. J'ai été formé pour ça pendant 4 mois, notamment par la CIA, financé par Washington, et je suis totalement dévolu aux intérêts américains. Nous en reparlerons pendant mon temps de présidence. » Il n'aurait pas été élu. C'est pas un secret, vous pouvez aller voir le site de Young Leaders sur Internet, mais ça n'est pas évoqué, et ça modifie gravement l'orientation politique de la France. Mais les Français ne savent pas. Mais ils ont voté Macron 2 fois, et on voit le résultat. Les Français qui ont voté Macron sont, ça me fait de la peine de le dire, mais ils sont responsables de la situation dans laquelle la France est. Mmh. Et puis il reste un problème qui continue ce que j'évoque, c'est d'accord, Macron c'est pas bien, mais on va changer dans pas longtemps. Qui on va prendre ? Eh bien là, je suis bien embêté. Parce que un qui va sauver la France, j'en ai pas. Je crois que c'est Aristote, sauf erreur. Vos auditeurs me le pardonneront si je me trompe. Je crois que c'est Aristote qui disait, il avait tenté de classifier les différents critères,
oui,
qui permettent, qui seraient universels et intemporels pour être un bon chef d'État. Et dans le premier de tous les critères, il y a aimer son peuple. Ben là, on est mal barré, là, franchement.
Alors, c'est vrai, Olivier Rouault, vous le démontrez à de nombreuses reprises dans votre ouvrage, et vous citez des papes, dont Léon XIII, hein, dont Pie IX, je crois aussi, qui sont des papes qui ont dit toute leur hostilité au suffrage universel.
Et y compris Saint-Pie X, d'ailleurs, qui lui-même disait à des visiteurs... je bénis les Français qui se rébelleront contre le suffrage universel dont on sait, c'est lui qui le dit, hein, qu'il était inspiré par les francs-maçons et imposé par la franc-maçonnerie.
Alors le rôle de la franc-maçonnerie justement dans l'imposition du suffrage universel, eh bien ça c'est un point sur lequel vous revenez souvent dans votre livre, Olivier. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, ben c'est toujours un peu la même histoire. Il y a ceux qui ont beaucoup étudié le sujet, qui ont lu, qui ont critiqué, qui ont exercé leur discernement, puis il y a ceux qui ne connaissent rien, et c'est ceux qui vont le plus en parler. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je prétends avoir beaucoup lu sur le sujet, avoir beaucoup parlé à des francs-maçons et à des noms, et à des gens qui étaient hostiles. Je crois qu'on peut simplifier sans excès pour dire que la franc-maçonnerie n'a été créée que dans un seul et unique but, c'est de détruire l'Église catholique. je ne dis même pas les chrétiens, c'est les catholiques. Ça n'a été conçu que pour ça. Et tout ce qui peu ou prou se rapproche d'une valeur catholique fait l'objet d'attaques de la franc-maçonnerie. On vient de le voir récemment avec l'euthanasie qui a été énormément promue par les puissances de la franc-maçonnerie et par l'installation de l'avortement dans la Constitution, ce qui est un truc horrible et abominable. Ça a été promu, poussé par la franc-maçonnerie. Et donc, ben, oui, bien sûr, aujourd'hui, il joue un rôle qui est de détruire toute trace d'esprit chrétien, de détruire toute trace d'esprit patriotique. C'est vraiment has-been, ça ne va pas du tout, ces choses-là. De même que la Révolution avait commencé à détruire les grandes familles, les terroirs, transformer les vieilles provinces en départements, découpés hors sol. Comme plus tard, les administrateurs ont découpé l'Afrique avec une règle et puis un triangle, et en faisant des frontières qui ne correspondaient pas aux tribus. C'est la même méthode. Et donc aujourd'hui, on continue. D'ailleurs, Peillon lui-même, ex-ministre de l'Éducation nationale, disait « Nous avons à terminer l'œuvre de la Révolution française ». Et il est un grand franc-maçon. Donc je pense qu'on les retrouvera partout où quelque chose de mal se fait contre la France et contre surtout l'Église catholique.
Et contre le bien commun. L'Église catholique, pour l'Église catholique, en tout cas, avant peut-être Vatican II et les derniers papes, sur lesquels là on aurait beaucoup plus à dire, d'ailleurs, on pourra en dire quelques mots si vous voulez tout à l'heure. Pour eux, les choses sont claires. Nulla potestas nisi adeo, nul pouvoir qui ne vienne de Dieu. C'est-à-dire que le pouvoir vient de Dieu. Il ne peut pas venir du peuple seul, même si saint Thomas d'Aquin rajoutait au nulla potestas nisi adeo le fameux peres populum. Par le peuple, certes, mais le pouvoir, lui, la légitimité du pouvoir, vient de Dieu, et c'est ce que vous expliquez, et c'est ce qui explique pourquoi, selon vous, il ne faut pas se prêter à la mascarade du vote.
Alors, je pense que ça mérite des nuances.
Allez-y.
Le vote existait sous l'Ancien Régime bien plus que maintenant. Dans tous les villages et les provinces de France, on votait énormément. Par exemple, j'ai en mémoire une découverte qui m'avait ému, une découverte historique. Il existe dans le sud-ouest de la France, la Bretagne, la Vendée, un peu ma Saint-Onge natale, des villages où les femmes, exclusivement entre elles, se réunissaient pour élire la prochaine sage-femme, la précédente étant morte, étant trop vieille, ayant disparu. Et donc, elles l'élisaient ensemble, elles votaient aussi pour les moyens qui lui étaient attribués, sa maison, son champ de travail, etc. Et une fois que c'était voté, ça recevait le stempel du roi. Et donc, ça, c'était admirable. On votait beaucoup. Mais on votait, vous avez cité tout à l'heure l'expression dont je raffole, qui est celle du bien commun. On votait en fonction du bien commun, pas en fonction d'intérêts partisans. Et, voilà. Et on a oublié que les femmes votaient. Les femmes votaient pour le maire, par exemple.
Alors ça, Raphaël Auclair, dans la préface, l'explique très très bien. Elle, qui a dans ses aïeux une suffragette, elle explique qu'en effet, eh bien, les femmes étaient... même sur le plan politique, bien mieux représenté qu'avec la bourgeoisie de la Troisième République, par exemple.
Oui, c'est tout l'intérêt de cette préface dont je continue à le remercier. Raphaël Auclair est non pas docteur en politique, elle est docteur en langue et culture russe.
Langue et culture.
Mais elle a aussi fait un master de géopolitique. Et donc, c'est une universitaire brillante, effectivement, qui est en amont avec moi-même cofondatrice de l'Institut Anne de Russie, où elle n'œuvre plus actuellement. Et effectivement, lorsque je lui ai parlé de mon projet, qu'elle a beaucoup aidé, elle a été émerveillée de se rendre compte qu'effectivement, on votait bien plus et on considérait bien mieux les femmes sous l'Ancien Régime que sous la République. Il a fallu attendre De Gaulle quand même pour que les femmes aient le droit de voter aux présidences. À la présidence.
Ah oui, alors, oui, première élection présidentielle de 65. Oui.
Voilà. Donc, sa préface est claire, effectivement, la différence entre l'Ancien Régime et la République à cet égard.
Alors, revenons-en quand même à ce pouvoir qui vient de Dieu.
Oui, alors...
Et qui est en contradiction avec le suffrage universel, en quelque sorte.
Ah ben, ça, bien sûr, évidemment. Mais on peut simplifier à l'extrême, tout vient de Dieu. Et les gens très pieux qui font leur prière du matin offrent toute leur journée et n'oublient jamais de dire que votre volonté soit faite. Et donc, on offre tout ce qui va nous arriver de bien ou de mal à l'avance. Et donc, bien sûr, la volonté de Dieu est permanente et on s'y assujettit normalement, plus ou moins, mais en permanence. Donc, bien sûr que le pouvoir vient de Dieu, et si Dieu ne permettait pas que nous subissions l'épreuve de Macron, mais il aurait ressuscité Sainte-Jeanne d'Arc à l'Élysée. Donc, ces voies sont assez mystérieuses et insondables. Elles montrent simplement que nous avons du boulot à faire, un gros boulot à faire. Et ce boulot-là, ben, j'explique qu'en participant aux élections, on participe d'une certaine façon à un péché.
Oui.
Puisque nous favorisons l'élection de quelqu'un qui va faire des péchés publics, des péchés graves, et de ce fait, quand on a voté Macron et que Macron met l'avortement dans la Constitution, eh ben on a participé à ça. Alors, l'ignorance nous sauve, vous savez, les vieux curés autrefois disaient, vous savez combien il y a de sacrements ? Ben oui, 7, monsieur le curé. Non, il y en a 8. Ah, c'est quoi le 8e ? C'est l'ignorance qui sauve beaucoup plus que les autres. Donc, bien sûr, quand je parle de péché, il ne faut pas le prendre strictement au pied de la lettre. Mais néanmoins, un petit peu quand même. Et donc, aujourd'hui, nous-mêmes, lorsque nous avons préparé cette émission, vous me l'avez rappelé, il n'y a pas beaucoup de candidats à lesquels on peut avoir foi et qui vont obéir d'une façon ou d'une autre à une volonté chrétienne.
Et, alors, ce que vous expliquez aussi dans votre ouvrage, Olivier Rouault, c'est que, finalement, la majorité a rarement, voire jamais raison. Et que c'est souvent des petites minorités qui vont aller, qui pourraient aller dans le sens de ce bien commun. Alors ça pose la question du suffrage, c'est-à-dire que si le suffrage universel n'est pas valable, par quoi le remplacer ?
Alors ça c'est la question vache, hein, la question piège.
Ah oui, il fallait que ça arrive à un moment donné.
Alors je regrette de n'y avoir que partiellement répondu à la fin de mon livre, ouais. Et c'est un sujet que j'ai travaillé un peu après.
Oui.
En réalité, ce qui m'est apparu, c'est la faiblesse actuelle de la société civile. Et la société civile a un rôle à jouer important en politique, notamment par sa vie associative. Et si l'on ne vote pas, on ne fait rien et on ne participe à rien. Donc évidemment, ce n'est pas intéressant. Mais si l'on participe à la société civile, dans ce cas-là, on est utile. Or, la société civile est une sorte de contre-force à l'État, et normalement, quand tout va bien, société civile et État sont équilibrés. Aujourd'hui, l'État a pris une prépondérance énorme, même en finançant une vie associative extraordinaire. Une banque récemment me refusait l'ouverture d'un compte pour l'Institut Anne de Russie, oui. Alors qu'elle prenait son intérêt pour les associations, et me disait « Mais enfin, monsieur, nous ne prenons que les associations qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. » Alors, j'en ai pas dans mes relations. Elle me dit « Mais si, toutes les ONG financées par l'État. » Voilà. Donc là, dans ce cas-là, la société civile est défaillante, elle est lacunaire. Et donc je prône un retour en force de la société civile qui reprenne un peu le contrôle de l'État et que ça ne soit plus l'inverse. Et l'on doit faire de la politique coûte que coûte, en permanence. Et pour moi, abandonner le vote est une bonne chose. Abandonner la politique ne serait pas bien du tout.
Alors oui, tout à fait. Hein, vous l'expliquez, vous dites bien que les papes, par exemple, considéré comme un péché de ne pas s'adonner à la vie publique. Intervenir dans la vie publique, c'est pour un chrétien, pour un catholique, vivement, très vivement encouragé. Ce qui n'est pas encouragé, c'est d'aller voter. Et il y a bien cette distinguo. D'ailleurs, vous expliquez que dans la démocratie moderne, finalement, c'est tout à fait l'inverse. Il n'y a plus aucune participation à la vie publique, à la vie politique de la part de 99% de nos concitoyens, et seulement une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 6 ans, aller bien mettre un bulletin de vote dans une urne. Et ça se réduit à ça, souvent, l'engagement politique de la plupart de nos concitoyens.
Oui, et puis on peut ajouter quelque chose de très étonnant à notre époque de très grande transparence, de très grande communication, soi-disant, et les réseaux sociaux, etc. C'est que les gens connaissent, à part dans les petits villages naturellement, mais dans les villes, les gens ne connaissent pas leurs élus. Et les élus ne vont pas tellement au contact de la population. On est loin de l'époque de Saint-Louis qui se déguisait en pauvre et qui allait bavarder avec les épiciers pour voir comment ça allait, quoi. Mmh. Et donc, nos élus ne connaissent pas les Français, ni au niveau de la nation, ni au niveau des communes. Bien sûr, je mets à part les petites communes. Néanmoins, j'ai prévenu que les petites communes, parce qu'il y a un mouvement chez les catholiques qui consiste à dire, nous qui sommes catholiques, qui avons a priori des bonnes pensées, et nous savons à qui nous sommes assujettis, nous devons prendre d'assaut les communes. Alors j'en connais beaucoup qui le croient sincèrement. Moi, je n'y crois pas. Parce que, à part de très 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 petites communes, le conseil communal est en général fait, celui qui va élire le maire, in fine, est en général fait de gens du coin et de gens du conseil régional, du conseil départemental, on dit maintenant. Et il y a là des gens qui sont moins impliqués dans la vie locale et qui parfois travaillent pour d'autres instances. Et le maire n'est pas tout à fait libre. Et le maire qui aujourd'hui décide de réfuter, par exemple, en raison de ses convictions, il dit « je ne suis pas d'accord avec un mariage homosexuel dans ma mairie », dans le quart d'heure qui suit, d'ailleurs ces jeunes auront été conduits par une association, et dans le quart d'heure qui suit, le préfet appelle le maire en disant « vous avez une journée pour vous exécuter, sinon je provoque l'élection d'un autre maire ». Et puis, il y a aussi beaucoup d'interactions financières qui ne dépendent pas du tout du pouvoir du maire, il y a beaucoup d'influence sur la vie commune qui ne dépendent pas du maire, le maire ne pourra rien faire. Et je pense que les catholiques de bonne volonté, très sincères, qui disent « on va prendre d'assaut une mairie », seront laminés à la fin.
Oui, alors oui, oui, tout à fait. Est-ce que dans votre logique, finalement, du tu ne voteras point, peut-être encore une question un peu piège, est-ce que vous croyez que finalement, si on ne vote pas, alors déjà, la distinction entre l'élection et le vote, est-ce que si l'élection, par le suffrage universel, ne convient pas, est-ce que vous êtes pour autant opposé aux votations? J'entends le mot votation de nos amis suisses, c'est-à-dire la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire ce qui se produit par exemple dans un pays comme la Suisse ou dans les villes allemandes ou en Italie du Nord ou dans de nombreuses villes aussi de l'Ouest américain. Est-ce que le vote, vous, est plus dans cette logique, ou bien est-ce que vous le confondez avec l'élection?
Dans une Alors, il y a peut-être plusieurs réponses différentes à faire dans votre question, peut-être. Vous avez raison de citer l'exemple de la Suisse, pays où j'ai vécu 10 ans, mais ce sont des systèmes qui ne sont absolument pas exportables. On a passé, de même que nous-mêmes avons passé notre temps à vouloir imposer notre modèle démocratique aux Africains, ça ne marche pas et ça ne correspond pas à leur vie. De même, les Suisses ont une forme naturelle de discipline que nous n'avons pas en France. Si vous allez vous arrêter sur les toilettes d'autoroute en Suisse, vous aurez l'impression de rentrer dans un laboratoire prêt pour dans une salle d'opération prête pour une opération à cœur ouvert, quoi. Et jamais un Suisse crachera par terre, jettera un chewing-gum ou un mégot, et jamais il vole. La plupart dans les villages, peut-être pas à Zurich ou à Genève, mais dans les petites villes, les gens laissent leur porte d'entrée de maison ouverte. Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Donc tout ce qui les conditionne, leur histoire, leur mode démocratique, ne peut pas fonctionner en France, on ne peut pas l'exporter, on peut peut-être en rêver un peu comme ça, mais ça ne peut pas marcher chez nous, ça ne peut pas se transposer. Après, pour revenir à votre sujet, je ne sais pas exactement si je confonds le vote. Je pense que c'est les circonstances qui font que le vote ne sert à rien. Plus, ça, j'en fais pas une généralité. Aujourd'hui, toujours, les Dominicains, même les abominables intégristes que j'aime à fréquenter, continuent à élire leur supérieur en votant avec des boules noires et des boules blanches, et ça marche très bien. Donc, c'est pas tant le vote lui-même qui est pécamineux. Même si je ne suis pas un très grand démocrate, il m'est arrivé, j'ai une famille nombreuse, pour certains projets importants, familiaux, de dire « bon, allez, aujourd'hui, je suis longanime et je vous propose que l'on vote pour… » On peut voter. Les circonstances font que ça ne sert à rien. D'abord, notre personnel politique n'est pas bénéficiaire de la moindre formation morale. Pas des plus jeunes qui se présentent actuellement aux plus anciens qui ne sont plus de ce monde, pas un de cette génération-là n'a la moindre formation morale. Ils ne peuvent pas nous aider. Et d'autre part, ils ont tous des casseroles qu'utilisent peut-être les mêmes puissances qui font pression sur Trump contre eux. On ne peut plus leur faire confiance, on ne peut plus y croire. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps n'est pas revenu de voter. Alors, c'est excessif dans les apparences. Dans la réalité, ça serait ridicule de se contenter de vivre comme ça si l'on ne faisait rien. Je pense qu'on peut faire dans son arrondissement, dans son quartier, dans son village, monter des associations utiles. On peut s'occuper des vieux, plus que jamais, on peut former des jeunes, on peut aider son maire, moi-même qui ne vote pas, partout où je suis arrivé, je déménage souvent, je vais voir le maire, en disant « Monsieur le maire, je ne m'inscrirai pas, je ne vote pas, mais je suis prêt jour et nuit à venir vous aider et à vous rendre service à chaque occasion. Et je me fiche complètement de quel parti politique vous êtes. J'espère que vous voyez le bien commun de vos habitants, et là, vous me trouverez. Et il m'est arrivé d'intervenir pour, voilà, dans un incendie, un drame familial, que sais-je. Voilà, ça, c'est la vraie vie. Et la vie associative doit permettre de pallier. Et voilà mon discours là-dessus.
Non, mais on voit petit à petit se dessiner le type de société politique que vous appelez de vos voeux, Olivier Rouault. Je rappelle votre livre, « Tu ne voteras point, Olivier Rouault », aux éditions Les bons livres pour tous, livre intéressant que je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs de se procurer. Vous en êtes déjà d'ailleurs à la troisième édition, je crois.
Oui, exactement, oui. Oui. On l'achète chez l'éditeur ou sur Amazon. Il est peu diffusé en librairie, il rencontre un peu d'hostilité dans le monde.
Ça m'étonne, comme je suis surpris.
Et même les milieux très militants ne l'aiment pas du tout. Je me souviens du mot d'une paroissienne qui me disait « Olivier, ça a l'air bien ton livre, hein. Je vais l'acheter, je vais le lire, mais après les élections.
» Après avoir voté, voilà. Oui, ce que dessine votre description de la société politique française, c'est que finalement, non seulement vous avez des personnes qui n'ont pas la compétence et qui vont mettre un bulletin dans l'urne, ça c'est le suffrage universel, et puis d'un autre côté, vous avez des politiciens, ils se ressemblent tous, et finalement, de toute façon, ils ne feront pas ce qu'ils prétendent vouloir faire, puisqu'ils sont les représentants, dites-vous, d'une petite oligarchie.
Oui, vous le décrivez bien. C'est bien sûr, ça a l'air un peu comme ça, un peu boujadiste de parler comme ça. Mais c'est une réalité qui dépasse l'anachronisme et qui dépasse les clivages. Aujourd'hui, notre personnel politique ne répond pas, en tout cas, à l'édification d'Aristote d'aimer son peuple. J'en connais aucun qui l'aime véritablement, qui le connaisse vraiment. Je suis quelqu'un qui analyse vraiment le monde politique et je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Et tout ce travail à la division, au clivage. Vous savez, la notion même de parti politique me pose un gros problème. C'est quelque chose qui consiste à diviser les Français. On n'est que dans la division. Vous savez que Simone Veil, la gentille, pas la méchante, Simone Veil, la philosophe, a écrit un bouquin sur les partis politiques dont je me suis inspiré, que j'ai beaucoup cité dans mon livre, où elle explique très très bien pourquoi les partis politiques ne servent qu'à diviser les gens et les empêcher d'exercer leur discernement. Et je me souviens très bien, je me souviens très bien plus ou moins, écoute, ça va m'en venir dans quelques minutes, mais un homme politique célèbre qui s'était fait exclure de son parti pendant quelques jours parce qu'il était hostile au parti. Et c'était une pointure d'envergure nationale. Et ça n'a pas de sens. Il a été exclu de son parti parce qu'il avait un avis différent, divergent, comme dirait Xavier Moreau. Et donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, la notion de parti politique, qui est typiquement issue de la Révolution française, n'est pas intéressante pour nous. Et donc, souvent, les gens dans les partis n'ont plus de discernement. Ah oui, mais enfin, non, on dit pas ça chez nous. Ben non, ça va pas. Il faut chercher la vérité. Il faut pas chercher à se conformer. Et donc, là aussi, ça pose un problème. Vous savez, si vous m'accordez encore un bout de réponse...
Ah ben je vous en prie, allez-y Olivier, n'hésitez pas surtout, c'est votre émission là.
Bon, mais merci. Je vais faire mon pédant, je vous en demande pardon. Un exemple, je ne suis pas historien, mais un exemple qui m'a passionné, c'est la fin de l'Empire romain. Mm-hmm. Sur lesquels de nombreux historiens et archéologues continuent à s'intéresser et à se pencher. Or, la fin de l'Empire romain a été incroyablement rapide. Il a fallu 2 générations pour que là où vous habitez, là où moi j'habite, il y avait des milices qui contrôlaient la ville, qui veillaient à la sécurité, les voies navigables étaient entretenues, il y avait une voirie, enfin, il ne faut pas croire que c'était des sauvages, on était au 4e siècle à peu près, et au 5e siècle, tout a disparu.
Ouais.
Et au moment où ça a disparu, on a vu des quantités d'halogènes.
On dira peut-être ça du 21e siècle pour l'Occident. Hein.
Vous me l'avez enlevé de la bouche, voilà, c'est ma conclusion. Merci Nicolas. En fait, c'est ça que je veux dire.
Pardon.
Ce que je veux préciser, c'est que tous ces halogènes qui ont tué les Français, qui ont détruit les églises, qui ont arraché les bonnes sœurs par les cheveux de leur couvent, qui ont détruit des villes comme Chartres, qui ont des murs épais comme des maisons, on s'est retrouvé dans l'apocalypse. Pour les gens de l'époque, c'était horrible. Et les gens finissent par s'organiser, surtout dans les campagnes. Donc les fermes se sont fortifiées. Et puis on s'est associé avec la ferme d'à côté. Les familles se sont alliées. les domestiques, les travailleurs, les gens qui étaient dans les fermes sont rentrés dans cette mouvance. On appelait ça les ménis, mesnils. Et les ménis étaient comme des grandes familles élargies. Puis les ménis ont grossi, se sont agrandis, les gens commençaient à vivre tout seuls, à gérer, à faire leurs règles parce qu'ils étaient nombreux, et avoir quelqu'un qui décidait que les règles étaient bonnes ou pas bonnes, et qu'elles étaient appliquées ou pas, une police qui sanctionnait. Tout ça vivait un peu en autarcie, et puis on se nourrissait, et on veillait sur soi, et puis on tirait sur les méchants. Et puis un jour, l'association des ménis a trop grossi, on a décidé d'élire un chef de toutes les ménis, et on a vu apparaître une capée. Je reconnais que j'ai mis beaucoup de raccourcis dans mon message. Mais je crois que c'est ça qui nous attend. Je pense que nous devons nous y préparer. Dans la campagne où je vis, j'ai une cousine médecin qui a eu la surprise de voir une brave femme venir la voir en disant « Écoutez, j'ai pas d'argent, j'ai pas droit à ci, j'ai pas droit à ça, mais regardez. » Elle sort un cabas et dit « Vous amenez un lapin et un poulet. » Alors ma cousine, qui a 32 ans, a dit « comment je vais payer mes impôts avec un lapin et un poulet ? Mais bon, cette fois-ci, je veux bien. » Et on en a parlé, elle m'a dit « Je crains que ça ne fasse qu'augmenter. » Et donc, nous avons intérêt... nous qui croyons au bien commun, que vous avez cité tout à l'heure, et je vous remercie beaucoup d'avoir cité ça, nous avons intérêt à nous préparer à ça et à travailler dans nos sociétés. Famille, amis, voisins, quartier, village, c'est déjà pas mal. Et à ne pas s'occuper de ce que l'État pense le moins qu'on peut.
Merci Olivier Rouault. Des questions d'auditeurs ou des remarques d'auditeurs qui vont dans le sens de ce que nous disons depuis tout à l'heure. Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Et moi non plus, voter pour Dati ou le PS, ça ne changera rien de rien. Donc en 2027, ça risque de faire la même chose. Bien courtoisement, nous dit cet auditeur. Un autre auditeur... Alors attendez, un autre auditeur ou auditrice, bonjour à... Ah oui, alors oui, cet auditeur qui est un partisan, semble-t-il, du parti, d'un parti justement dont on disait le plus grand mal, non pas ce parti-là, mais les partis en général. En tout cas, il s'agit du parti Reconquête de Madame Knafo. Eh bien, bonjour à tous, nous dit cet auditeur. Madame Knafo, le parti de Madame Knafo est le seul qui a manifesté contre l'intervention de drag queen dans une école du 13e arrondissement. Écoutez, je crois que cette droite identitaire que représente Madame Knafo est assez proche, en effet, de la droite américaine, assez proche de ce que peut représenter Trump aujourd'hui. On en voit à la fois l'intérêt sur le plan du woke, sur le plan LGBT, et puis on en voit aussi les limites sur le plan international, sur le plan, je dirais aussi, d'éléments de société. C'est-à-dire que le parti Reconquête, en effet, a sur ces aspects-là, que ce soit sur des questions liées parfois à l'immigration massive, ou que ce soit sur les questions de type sociétal, une approche qui peut être satisfaisante. Peut-on en dire de même de la position qui est la leur sur les grands sujets, finalement, internationaux, tels que, eh bien déjà depuis la crise Covid, on n'a pas entendu Zemmour ni Knafo sur ce sujet, ce gendarme en particulier de la politique sanitaire appliqué à cette époque. Que dire de la Russie et du conflit entre l'Ukraine et la Russie? On n'entend pas Madame Knafo et Monsieur Zemmour, eh bien particulièrement agissant sur ce thème. Bien au contraire. Que dire du tropisme sioniste pro-israélien de Madame Knafo et de Monsieur Zemmour par rapport à l'horreur qui se déroule actuellement au Proche et Moyen-Orient? Donc il y a, je crois, à boire et à manger sur ce sujet. Mais dont acte, bien sûr, cher auditeur, sur le fait qu'il est salutaire, et très salutaire, que Mme Knafo et que le parti Reconquête aient manifesté contre l'intervention de drag queen dans une école. C'est certain, en tout cas, sur ce point uniquement, me semble-t-il. Voilà. J'ai d'autres questions d'auditeurs que je vais poser dans un instant. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions, je vais y donner droit, bien évidemment. Est-ce que finalement votre système, Olivier Rouault, même si vous êtes anti-système, ça se sent, peut aboutir à un retour de la monarchie? Est-ce que, en plus donc du fait de s'associer dans des communautés restreintes, comme vous venez de l'expliquer de façon très judicieuse, à mon avis. Est-ce que vous pensez que le tout doit être chapeauté, eh bien, par le retour d'un roi ?
Alors, si j'avais un avis tranché là-dessus, je serais bien prétentieux. Je crois vraiment que la République est un système pourri, même si Macron a diligenté des lois et des réglementations qui interdisent d'en dire du mal. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en dire du mal. La République ne peut pas fonctionner. Elle est profondément pourrie. Elle est une fille de la Révolution française. Elle a été créée volontairement, exprès, pour assujettir les Français. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne vote pas. Je n'ai pas envie de jouer avec les mêmes règles de la République. On dit toujours que pour manger avec le diable, il faut une longue cuillère. Et là, j'ai vraiment agrandi ma cuillère. Cela dit, je crois que j'ai perdu le fil de votre question, je vous demande pardon.
C'est la question du roi, c'est la question du roi.
Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, oui. Cela dit, les temps ont vraiment changé. Alors, je suis totalement de cœur, je suis plus monarchiste, je suis royaliste, plus monarchiste que royaliste, je le suis de cœur, sincèrement, mais je ne suis pas militant, d'ailleurs, ça serait paradoxal si on ne peut pas voter pour un roi, on ne peut pas militer pour un roi, et je suis plutôt providentialiste, j'attends que le bon Dieu s'en occupe, et je n'ai pas envie de militer là-dessus, même si je reconnais que l'ancien régime qui serait mis au goût du jour a incontestablement plus de chances à faire du bien aux Français que la République actuelle.
Oui, donc, voilà, après, j'ai envie de dire, faudrait-il aussi que sur ce sujet, nous ayons... un candidat qui soit à la hauteur.
Oui, mais vous voyez, j'ai eu l'occasion de faire un article dans Divergence politique de Xavier Moreau sur le jeunisme en politique. Et c'est quelque chose qui m'est incompréhensible. Ces jeunes aujourd'hui, qui n'ont pas fait grand-chose encore de leur vie, je ne vais pas attaquer personne ad hominem, mais on voit des jeunes candidats qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie, qui sont intelligents, ça évidemment, mais qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de sang-froid, qui n'ont pas connu des années de guerre, qui n'ont pas de réseau international, qui n'ont pas d'immenses carnets d'adresses, qui n'ont pas d'expérience diplomatique. Ce n'est pas possible que ces gens-là soient vraiment utiles en cas de crise. Ce n'est pas possible. Et quelqu'un qui a connu, dans les derniers présidents de la République, le dernier devait être François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui ont connu les années d'occupation, avaient forcément une vision différente du monde. Et les jeunes qui se présentent aujourd'hui ne peuvent pas assumer le monde de la même façon. Et il manque surtout du recul, du sens de l'histoire et du sang-froid. Et ce jeunisme-là nous perturbe et nous gêne. Et quand on dit « oui, c'est bien, tu te rends compte, il est jeune », on l'a vu avec Macron, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour comprendre la France, l'aimer. Or, pour rejoindre votre propos, un gamin qui est né en sachant qu'il allait devoir un jour diriger le pays, qui n'est formé qu'à ça, au détriment de beaucoup, beaucoup d'autres choses, et d'activités, de loisirs, de jeux, qui n'est formé qu'à ça, sera forcément plus compétent, nécessairement. Je le vois par un pays que je fréquente, où j'ai un bureau d'ailleurs, où je travaille énormément, qui est le Maroc. Le Maroc est une grande nation, une grande société, très apaisée et bien organisée.
Oui.
Et lorsque je suis à Rabat, je vois à quel point le futur roi du Maroc, qui s'appellera Hassan III, fils de l'actuel Mohamed VI, ne vit que pour diriger son pays. Alors il a 22 ans, il a 23 ans, il est très jeune.
Oui.
Néanmoins, depuis qu'il est né, il ne travaille qu'à ça. Donc il connaît les différentes langues et dialectes de son pays, il connaît tout le pays, et il ne travaille qu'à aimer son peuple et à le diriger un jour. Je prétends qu'un jeune Bardella à côté ne pèse pas lourd. Voilà, c'est une opinion.
Alors ça, je partage bien, bien volontiers votre avis, mon cher Olivier. Des auditeurs, bonjour, merci pour cette émission très intéressante, nous dit cet auditeur. Et vous avez raison, car un Raphaël Arnaud, député LFI, responsable de la mort de Quentin, 23 ans, lynché, alors qu'il est fiché S, hein, c'est Arnaud. Les députés français n'ont aucune moralité, bien courtoisement. Un auditeur, si voter servait à quelque chose il y a longtemps, que ce serait interdit.
Remettez une médaille à cet auditeur.
Je vous laisse reconnaître l'auteur.
Bien sûr.
Alors là, ça m'est direct. C'est je suis concerné par cette remarque. Ça faisait longtemps, tiens, que je n'avais pas eu un auditeur qui me faisait quelques remarques sur ma façon de m'exprimer. Mais je l'entends toujours. Et alors, je vais d'ailleurs lire les remarques professorales de notre cher Olivier. Tiens, je ne dirai pas, je ne donnerai pas son nom de famille, mais en tout cas, c'est un Olivier aussi. Bonjour, cher Nicolas. Il y a beaucoup trop de. Est-ce que, pour poser vos questions, pour toutes celles que vous venez de poser à votre invité, vous pouviez employer la forme interrogative ou interro-négative directe, comme « croyez-vous, pensez-vous que » au lieu de « est-ce que vous croyez que ?»« Est-ce que vous pensez que ?»« Ne croyez-vous pas que ?» et ainsi de suite. C'est très facile, il suffit de le penser. À bon parleur, salutations courtoises. Merci, cher auditeur, de penser ainsi au questionnement du patron d'émission. Je vais essayer d'en tenir compte. Et comme vous le dites, il suffit de le penser. Eh bien, je vais essayer de le penser. Bien, bien, bien. Donc, je ne vais pas commencer par « est-ce que hein, » Olivier, ma prochaine question.
Cet auditeur a raison d'aimer le français, de toute façon.
Il a parfaitement raison. Il reste que quelques minutes dans cette émission. J'aimerais que vous, si vous avez envie, si vous avez des choses à ajouter par rapport, je le rappelle, à votre livre, « Tu ne voteras point, Olivier Rouault, préface de Raphaël Auclair, premier prix de littérature chrétienne dans la catégorie éthique à Tours 2022, ce sont les éditions Les Bons Livres pour tous. J'ai même un auditeur qui m'a contacté directement pour me dire « Vous feriez bien de présenter Olivier Rouault à Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Hein, » Voilà quelqu'un qui, en effet, a de l'ambition politique et de la qualité. Eh bien, merci en tout cas pour toutes vos réactions, chers auditeurs. Il ne me reste plus que le quatrain de Michel Dumas que j'attends. Ah, peut-être va-t-il arriver. Non, c'est encore... c'est une auditrice que je connais bien qui nous envoie ces points. Peut-être avant que j'aie le temps de lire notre auditrice, avant de le développer, auriez-vous donc j'espère que là, la forme interrogative va satisfaire. Là, je m'en en mêle les pinceaux. J'ai peur de ne que votre homonyme ne vienne à nouveau me tenser. Alors, je pose la question, en tout cas, Olivier, si vous avez des éléments à ajouter par rapport à votre livre.
Oui, il y en a un que je peux peut-être
nous sommes
ajouter.
Vers la fin de l'émission. Je vous écoute. Nous vous écoutons.
Je serai court, bien sûr. C'est un point qui m'est très souvent objecté, que j'entends très souvent, et que je trouve terrible. C'est la notion de moindre mal.
Oui.
Or, souvent, on me dit « Non, mais je ne suis pas d'accord avec ce candidat, mais je vote pour lui parce qu'il représente le moindre mal. » Or, le moindre mal n'existe pas. Le moindre mal est un mal. Donc, choisir entre un mal et un moindre mal, c'est quand même choisir entre deux mots et d'en choisir un. C'est très compliqué. Et les pères de l'Église ou les différents savants catholiques qui ont écrit sur le sujet ont toujours combattu la notion de moindre mal. Il existe une notion compliquée de moindre bien, ou un bien peut-être excellent, ou un bien peut-être un peu moindre, peut-être qu'il y a une confusion qui s'est faite avec ça, mais un mal reste un mal, et on ne peut pas dire « j'ai voté pour un tel parce que c'est un moindre mal ». Je ne veux pas attaquer la personne, mais je suis obligé de donner cet exemple. Je me souviens de quelqu'un qui, à l'époque, les communautés catholiques au présidentiel, étaient très engagées en faveur d'Éric Zemmour. Or, Éric Zemmour, un jour, avait dit, je cite même la référence et le lien dans mon bouquin, avait dit « oui, les catholiques, moi je les aime bien ». Ils sont assez disciplinés, c'est moi je les aime bien. Mais ce que je supporte pas, ça, c'est leur Christ, là. Non, ça va pas. Et les gens qui votent pour Zemmour dans ces cas-là, est-ce qu'ils tiennent compte de ça? C'est inacceptable. Ils disent oui, mais c'est le moindre mal. Non, un mal, c'est un mal. On peut pas choisir. Donc cette politique de moindre mal, il faut absolument la désinguer. Voilà.
Alors, Olivier Rouault, notre auditrice, avant le quatrain de Michel Dumas qui est arrivé, qui est plein de sagesse d'ailleurs, je le laisserai à votre appréciation. D'abord, cette auditrice, bonjour messieurs, mon ami, quel bonjour à Lara. Le peuple est amorphe et prostré. Cet état comportemental a été préparé de longue date. Il y a les manipulations individuelles et les manipulations de masse, manipulation et corruption par argent, manipulation et corruption idéologique, manipulation jusque dans leur âme et dans leur morale. une foule est capable de perdre la tête face à un seul orateur, par exemple Mélenchon. Plus la foule est nombreuse, plus le quotient intellectuel est bas. Trump a été mis en place, peut-être, pour endormir la droite qui s'est rendue compte des Biden et leur vol. C'était calculé par les néoconservateurs. Moi aussi, je suis déçu. Preuve en est, les guerres développées au Moyen-Orient, la liste est longue.
Vous êtes assez d'accord ? Cette dame a parfaitement raison. Elle est entièrement dans le vrai. Et je dirais même que la déformation de nos chers compatriotes a été voulue, organisée depuis au moins 30 ans. Je ne vous ferai pas l'affront de remonter jusqu'à la Révolution française, mais ça fait au moins 30 ans, voire 40, qu'on déforme les Français. Depuis la maternelle, maintenant, c'est devenu très visible et c'est dramatique. La petite école, le lycée, la fac, le début d'un jeune professionnel, tout est fait pour lui tendre complètement les neurones, et ce n'est plus quelqu'un qui est capable de réfléchir, de discerner.
De discerner. C'est exactement ça, Olivier. Alors, le 4-1, puisqu'il ne nous reste à peine, même pas 3 minutes, le 4-1 de notre ami Michel Dumas, collaborateur de ce livre journal de Géopolitique Profonde. Je lui rappelle que s'il veut aussi nous gratifier d'un 4-1 un mercredi sur deux dans le livre journal de la Résistance française, qu'il n'hésite surtout pas. Nous l'avons parfois et nous en sommes aussi très heureux. Mais en tout cas, déjà, l'avoir tous les samedis est un bonheur. Michel Dumas, et voilà son 4-1, je vous le livre tel quel. Dans ce monde en péril où tant de gens vivotent, l'esprit de division corrompt âme dévote, nostalgique du temps où se dansait gavotte, les jeux sont déjà faits en dépit de leur vote.
Voilà. Très bien, merci voilà. Beaucoup Monsieur Dumas. Très bien.
Le 4-1 de notre ami Michel, formidable. Formidable 4-1. Eh bien, écoutez, il nous reste allez, 1 minute 30 pour conclure cette émission. Je vous rappelle, chers auditeurs, le livre d'Olivier Rouault, avec une préface de Raphaël Auclair, « Tu ne voteras point hein, ». Voilà, tu ne votes. Et ce sont les éditions Les Bons Livres pour tous que vous retrouvez sur Internet, sur Amazon. Si vous voulez vous le procurer, nous en sommes à la 3e édition. Il a un prix, il a été primé, ce livre, par le premier prix de la littérature chrétienne en catégorie éthique, à Tours en 2022. Eh bien, écoutez, Olivier, je pense que nous avons fait un bon tour dans cette émission. Je vous remercie beaucoup de votre participation, comme je remercie évidemment Lara pour sa participation, ainsi que notre bénévole Patrice et puis Arnaud qui était à la technique. Et je vois que Mike Borowski est prêt. Il est dans les, j'ose pas dire sur Radio Courtoisie, les starting blocks, parce que je vais encore me faire taper sur les doigts.
Ah non, non, non.
Voilà, mais en tout cas, il est prêt, notre patron d'émission du Libre Journal des Controverses, le Mike Borowski, mon ami Mike, qui maintenant eh bien, va développer son libre journal. Je vous remercie, Olivier, encore une fois.
Merci à vous de votre accueil.
Et je vous souhaite une excellente journée, comme à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, sur leur radio de cœur, qui est Radio Courtoisie. N'oubliez pas d'aider votre radio. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine, toujours sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Géopolitique Profonde, dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 7 mars 2026, de 9h à 10h30, et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.